Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici une histoire très douloureuse. L'enquête sur l'assassinat de Maëva Rousseau en avril 2012 à Chérance dans le Val d'Oise. Douloureuse parce que on découvre Maëva morte près de son bébé vivant. Et douloureuse aussi quant aux raisons pour lesquelles on l'a tuée. C'est une histoire dans laquelle le malheur s'ajoute au malheur. J'ai écrit cette histoire avec O'Kiss, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
La première scène de cette histoire est absolument déchirante, terrible, effroyable. On est en avril 2012 dans un petit village du Val d'Oise, à Chérance. Un père de famille, Alan, 25 ans, rentre chez lui. Il est cuisinier, il a travaillé toute la journée, il est 3 heures du matin et il ne rêve que d'une chose, c'est d'aller se coucher près de sa compagne Maëva et de son petit bébé Lorenzo. Alors il gare sa voiture juste devant chez eux, il sort de sa voiture et là, à l'étage, il entend son petit bébé qui pleure. Et comment dire, il sent que ses pleurs ne sont pas normaux, qu'il s'est passé quelque chose. Alors il se précipite dans l'escalier qui mène à l'étage, et ce qu'il voit quand il arrive là-haut, il ne pourra jamais l'oublier. Lorenzo est là sur le sol, il est coincé sous sa maman, dans une mare de sang. Maëva ! Maëva ! Il se précipite vers elle, il libère le bras du petit Lorenzo et dans une démarche totalement désespérée, il essaye de lui faire du bouche à bouche. Ça ne sert à rien, Alan. Ça ne sert à rien. Elle est morte. Alan attrape son téléphone, il appelle le SAMU. Oui, à Chérance. Venez vite. Vite? Mais pourquoi, Alan? Elle est morte. Le décès est constaté par le SAMU à 3h30 du matin. Mais qui? Qui a pu faire une chose pareille? Tuer Maëva sous les yeux de son bébé? Les enquêteurs de la gendarmerie sont sur place le lendemain aux aurores. Tu remarqueras que la porte d'entrée n'a pas été forcée. C'est peut-être le signe qu'elle connaissait son meurtrier. En tout cas, elle lui a ouvert. Et dans la pièce à l'étage, ils prennent des photos sous tous les angles. Les murs, tachés de projections de sang. Et puis le lit du petit Lorenzo, totalement fracassé. Tiens, regarde. Sur un pied de lit, il y a des cheveux collés. Du coup, je me dis que c'est peut-être l'arme du crime, non? Ok, vous prenez des empreintes. ADN, digital, tout ce que vous trouverez, hein? Et qui pourra nous donner l'identité du tueur. Je vous le dis tout de suite, ils ne trouveront rien, aucune trace. Monsieur ? Monsieur, vous êtes le compagnon, c'est ça ? Oui. Est-ce qu'il vous semble, monsieur, qu'il manque quelque chose ? Qu'on vous a volé quelque chose ? Mais il manque son sac à main. Dedans, il y a tous ses papiers. Et autre chose ? Non, à première vue, rien d'autre. Un tel déchaînement de violence pour un cambriolage, ça paraît peu probable. Sur le corps de Maëva Rousseau, puisque c'est son nom, le médecin légiste compte une quinzaine de coups. Ils ont été portés par un objet pesant et contondant, des coups très violents, hein. La boîte crânienne est brisée en plusieurs endroits, et des côtes aussi. Et vous voyez là, les blessures violacées sur son avant-bras, et puis ses doigts retournés. Ça indique qu'elle s'est protégée. Et même qu'elle a protégé son fils, hein, sous la pluie de coups qu'elle a dû recevoir. Le bébé, ça je ne vous l'ai pas encore dit, n'a rien. Pas une égratignure. Il n'a plus de maman, elle a été tuée dans des conditions effroyables, il a tout vu, mais physiquement ça va. la suite de l'enquête, eh bien, c'est du classique. Depuis le temps que je vous raconte des affaires criminelles, vous devriez savoir. Reconstituer l'emploi du temps de la victime. Les parents de Maëva sont les derniers à l'avoir vue vivante. Elle est venue dîner à la maison avec Lorenzo. Et ils sont partis vers 10h moins le quart, oui. 10h moins le quart. Et ce qui s'est passé après, c'est son téléphone portable qui le raconte. À 22h04, Maëva envoie un SMS à Alan pour lui dire qu'elle est bien rentrée. 13 minutes plus tard, à 22h17, Alan lui répond qu'il pense rentrer vers 1h du matin. Maëva lui répond tout de suite et elle lui dit qu'elle a pris un bain et qu'elle se sent grosse. À 1h moins 5, Alan envoie un dernier SMS pour dire que finalement il a beaucoup de travail, il ne rentrera pas avant 3h du matin. Et ce dernier SMS, Maëva ne l'a pas ouvert. Il y a encore le petit point bleu à côté du message sur son portable. Et si elle n'a pas répondu, eh bien c'est sans doute parce qu'elle était morte. Et donc elle a été tuée entre son dernier SMS, « J'ai pris un bain et je me sens grosse » à 23h18, et ce SMS qu'elle n'ouvre pas à 1h moins 5 du matin. Deux jours plus tard, quelqu'un se présente au commissariat. On a trouvé ce sac à main. Il flottait dans les eaux de la rivière avec Saint-Surepte, tout près du restaurant. Ben, je suppose que quelqu'un l'a perdu. Quel restaurant ? Le Moulin des Fourges. Vous connaissez ? Ah oui, très bien. Merci, monsieur. Tiens. Le Moulin des Fourges. C'est le restaurant où Alan, le compagnon de Maëva, est cuisinier. En attendant, dans ce sac, il y a tout. Ses papiers, sa carte bancaire et même de l'argent liquide. Confirmation qu'on n'a pas tué Maëva pour la voler. Mais pour autre chose. Donc le sac de Maëva flottait dans la rivière, tout près du restaurant où travaille Alan. Ça pue, ça. Et si c'était lui ? Je vous ai tellement raconté d'histoires dans lesquelles papa tue maman. D'autant que cet Alan n'est pas un enfant de cœur. Hein. Et ça, les gendarmes le savent. Hein. Ils l'ont déjà coincé dans une affaire de trafic de chichons. Et quand je dis chichons, je ne parle pas du pâté comme dans le sud-ouest. Je parle du hashish. Alan vend un peu de shit en marge de son métier de cuistot. De là, tuer sa femme, c'est autre chose. Mais le voilà à la gendarmerie. Vous pouvez nous donner votre emploi du temps pour l'après-midi et la nuit du 8 avril, monsieur ? Ben, je travaillais au restaurant. Vous avez commencé à quelle heure ? J'ai commencé vers 17h. Et je suis rentré un peu avant 3h du matin. On avait un gros mariage. Bon, vous pouvez vérifier, hein ? Il y a des caméras de surveillance au resto. On vérifiera. Et si on parlait un peu de vos petits trafics de cannabis ? Ben, je reconnais, j'en vends un peu. Et d'ailleurs, Maëva, elle n'aimait pas trop ça. Hein. On se prenait la tête souvent avec ça. Hein. Ah, hein. Une dispute qui aurait dégénéré ? Eh bien non, car on le voit parfaitement bien sur les images du système de surveillance vidéo du restaurant. Il n'a pas menti. Il était au resto jusqu'à 3h. Ça n'est pas lui qui a tué Maëva. À part ça, Chérance, c'est pas un gros village, hein. 160 habitants. Et donc forcément, des gens ont vu quelque chose. Moi, je rentrais d'un dîner, à pied. Il devait être minuit et demi. Et en passant devant chez eux, ben, j'ai vu une camionnette blanche arrêtée. Et il y avait un type au volant. Et ce qui m'a surpris, c'est que il portait des gants, vous savez, des gants de vaisselle roses. Et il a vu que je le regardais, et donc il a tourné la tête pour pas que je le reconnaisse. C'est pour ça que je me suis dit, faut que je retienne le numéro de sa plaque minéralogique. Et vous vous en souvenez ? Pas complètement. Hein. Je dirais qu'il y avait E, R, W dedans. Ou E, X, W. En tout cas, il y avait un W. Il n'a pas une mémoire d'éléphant, papa. Il dit aussi que le type avait la soixantaine. Heureusement, il n'est pas le seul à avoir vu quelque chose. Un couple de voisins, lui aussi, a aperçu la fourgonnette blanche. Elle roulait au pas. Et les phares éteints. Mais celui qui était dedans, on l'a bien reconnu. Ah bon? Et c'est qui? Alain Berruet, qui s'appelle. Il est à la fois électricien et maçon à Bré-Élu. Alors ça, c'est du lourd. Et les gendarmes vérifient, cet Alain Berruet a bien une camionnette blanche. Et il y a bien un W dans son immatriculation. Vous vous doutez qu'Alain Berruet est immédiatement convoqué à la gendarmerie. Vous faisiez quoi le 7 avril au soir, monsieur Berruet?
Le 7 avril? Moi, j'étais chez moi. J'ai fait du carrelage toute la journée.
Et le soir?
Ah ben, le soir, je suis allé chez des amis où mon fils il a passé la journée. Puis je suis resté là-bas pour dîner. J'ai dû rentrer vers 11h, 11h30.
Et puis?
Bah après, je suis allé me coucher.
C'est tout?
Bah oui, c'est tout.
Le lendemain, les gendarmes fouillent le domicile des Berruet. Un meurtre comme celui de Maëva, vu la sauvagerie, ça a dû laisser du sang sur des vêtements. Les vêtements de celui qui l'a tué. Alors ils saisissent tous les vêtements, ils les font analyser. Pas la moindre tache de sang. Mais chez les Berruet, les gendarmes ont vu autre chose. Autre chose que du sang. Ils ont vu le malheur. On ne peut rien dire d'autre. Le malheur. Une sorte de mausolée dans une pièce au volet fermé avec des photos et des bougies. Un mausolée dédié à leur fils de 24 ans, Rodolphe, qui s'est tué dans un accident de voiture il y a 8 mois. Une sortie de route après un virage, il avait 1 gramme d'alcool dans le sang. On a retrouvé son corps 20 mètres plus loin dans un champ, éjecté. Et les gendarmes connaissent bien cette histoire parce que depuis, le père Berruet a perdu la tête. Il n'accepte pas les conclusions du rapport de gendarmerie.
Comment ça qu'il a été éjecté? Les portes de la voiture étaient fermées. Et le pare-brise et les vitres intactes. Il n'a pas été éjecté, mon fils. Il y a autre chose. Et puis vous avez vu la blessure qu'il a sur l'épaule? Sur l'épaule droite? C'est la marque d'une ceinture de sécurité. Et s'il l'avait sur l'épaule droite, c'est qu'il était sur le siège passager. Sinon, il l'aurait eu sur l'épaule gauche. C'est pas lui qui conduisait. Vous entendez, c'est pas lui qui conduisait. Faut faire une enquête.
Et tout ça, ça l'a rendu fou. Un jour, les gendarmes ont dû intervenir au cimetière pour neutraliser Alain Berruet. Il était en train de déceler la tombe de son fils.
Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Berruet? Vous voyez pas? Je creuse. Ma femme, elle a entendu un grattement sous le marbre.
Terrible scène. Bouleversante, on a envie de chialer avec eux. Et cet homme-là, 8 mois plus tard, a été vu en pleine nuit, garé devant chez Maëva Rousseau et son copain Alan, avec des gants de vaisselle roses. 1 heure avant qu'Alan ne trouve Maëva morte, auprès de son bébé. Est-ce que ces deux histoires sont liées? Pour l'instant, on ne voit pas trop comment. C'est la mère de Maëva qui va aider les gendarmes à faire le lien en leur racontant un incident qui a eu lieu 6 mois plus tôt, en octobre.
Ça s'est passé devant la supérette de Bré-Élu. Alain et Maëva, ils venaient de faire leur course. Ils avaient le bébé dans les bras. Et là, ils ont vu les Berruet débouler comme des fous. Et elle, Enda Berouet, elle a pris Maïva par le col et elle l'a secouée en lui disant qu'elle allait la tuer. De ses propres mains, qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle n'avait pas peur de la prison, qu'elle n'avait plus rien à perdre.
Ce qui voudrait dire qu'il pensait que votre fille et son compagnon étaient pour quelque chose dans la mort de leur fils.
Oui. Et depuis, Maëva, elle avait peur de les croiser. Et avec Alan, ils sont allés porter plainte, hein, au commissariat.
Eh ben voilà. On l'a, le mobile du crime. Les Berruets pensent qu'Alan et Maëva sont responsables de la mort de leur fils. Et c'est pour ça que le père Berruet a tué Maëva. Ça se tient. Mais alors, qu'est-ce qui leur fait dire que Maëva et Alan sont responsables de la mort de leur fils? La mère de Maëva se met alors à raconter une histoire qui remonte à leur adolescence, à tous les trois. Maëva, Alan et Rodolphe, ils sont connus sur les bancs de l'école primaire. Et en grandissant, ils faisaient partie de la même bande. Ils se regroupaient le week-end et le mercredi sur la place de la mairie, les scooters, les premières cigarettes et puis les premiers baisers. Et quand ils avaient 15 ans, Maëva, elle est sortie avec Rodolphe. Et Alan, lui, il est sorti avec une fille qui s'appelait Christelle. Et tout ça, ça a duré 4 ans. Et puis au bout de 4 ans, c'était des gamins, hein. Ils ont, en quelque sorte, permuté les couples. C'est-à-dire que Maëva a quitté Rodolphe pour Alan et Rodolphe, il est allé avec Christelle. Mais Rodolphe, il n'arrivait pas à oublier ma fille, Maëva. Alors il a commencé à lui envoyer des SMS. Au début, Maëva, elle n'y a pas trop prêté attention. Mais quand elle est tombée enceinte, forcément, ça a commencé à l'agacer. Et Alan, il a dû mettre les points sur les i à Rodolphe. Mais Rodolphe, ça ne l'a pas arrêté. Et Alan, il a dû retourner le voir. Mais ça n'a rien changé. Et comme Rodolphe, il était toujours avec Christelle, et ben un jour, Alan, il a montré à Christelle les SMS que Rodolphe envoyait à Maëva. Et du coup, ben, elle a plaqué Rodolphe dans la journée. Et Rodolphe, il était au fond du trou. Alors ce soir-là, il a vidé une bouteille de whisky. Et il a pris sa voiture pour aller régler leur compte avec Alan et Maëva. Et il a loupé un virage à plus de 100 km/h. Et il s'est tué. Et c'est pour ça que les parents Berruet, les parents de Rodolphe considéraient Maëva et Alan comme responsables de la mort de leur fils. Oui. C'est pour ça.
Retrouvez Christophe Ondelatte pour la suite de votre récit dans un autre podcast déjà disponible sur votre plateforme.